L'agrégation de Louis XV à nos jours. Le concours d'agrégation a été institué par les lettres patentes et donc royales des 3 mai et 10 août 1766, d'où cette illustration musicale. Nous fêtons donc dans 2 jours les 250 ans de l'agrégation. L'histoire de l'agrégation n'est pas linéaire, elle raconte aussi celle de l'école entre évolution et permanence. Et puis je dois ajouter que cette émission s'intéressera aussi au présent et à l'avenir de ce concours difficile et prestigieux. Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Rue des Écoles, attachée de production Laurence Genepin, Alexandra Malka est à la réalisation, à la technique, c'est Delphine Baudet. Que vous écoutiez cette émission ce dimanche 1er mai ou en différé, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à notre podcast via franceculture.fr par exemple. Et pour commenter ce programme et échanger avec nous, nous sommes présents et accessibles sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Donc le sujet est l'identité. Vous avez 7 heures, donc il est 11h05 jusqu'à 18h05. Et je vous souhaite bon courage pour ce dernier marathon.
En fait, il y a le côté un peu impressionnant. Enfin, faut dire ce qu'il y a les profs, mais enfin, moi, je sais pas, ils font vraiment peur enfin, quand ils nous présentent les épreuves, quand ils font leurs cours, tout ça. Et le fait que l'épreuve se passe en 7 heures, c'est comme en prépa. Et en fait, là, c'est pire parce qu'il y a un poste à la clé. Et donc les enjeux ils sont pas les mêmes, on a vraiment l'impression de jouer sa vie et c'est trop stressant.
Extrait du film de Noémie Serfati, Des agrégations, en 2 mots. Film consacré à la préparation de l'agrégation de philosophie, une des plus sélectives. On entend Chérienne, une des candidates. Ce film est sorti en 2015. Il est toujours visible en ligne. Je vais demander d'abord à mes invités si ça leur rappelle des souvenirs. Bonjour Claude Lelièvre.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'éducation, professeur émérite et agrégé de philosophie.
Oui, ben, j'ai eu aussi une dissertation en 7 heures, dont le sujet m'a laissé un peu perplexe au départ, mais je m'en suis très très bien tiré, sans quoi je ne serais pas là. Et c'était l'inconnu, point.
Et c'était en quelle année ?
En 1971.
L'inconnu, point. Blanche Lockman, vous vous souvenez de votre sujet d'agrégation ?
Alors, mon sujet d'agrégation était un peu plus long, parce que c'était un sujet de lettres,
oui.
Mais c'était sur Rousseau, juge de Jean-Jacques. Qui est une œuvre un petit peu particulière et c'était un vrai défi de composer pendant 7 heures sur le sujet.
Vous êtes aujourd'hui présidente de la Société des agrégés de l'université et ce depuis 2012. Bonjour Marie-Caroline Missir.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la rédaction de l'étudiant, pas agrégée à ma connaissance.
Absolument pas.
Comme moi, je ne suis pas agrégée non plus, mais juste puisque vous connaissez très bien le monde de l'enseignement supérieur, on va essayer de situer avec vous l'agrégation, qui est un concours très particulier, qui n'a pas vraiment d'équivalent à l'étranger, situer l'agrégation dans le paysage universitaire. Français.
Il y a un paradoxe qu'il faut souligner immédiatement, c'est que aujourd'hui l'agrégation, en tout cas les professeurs qui sont agrégés, enseignent pour une grande partie dans le secondaire, alors que dans la façon dont l'agrégation est considérée dans l'enseignement supérieur, c'est considéré comme un diplôme et comme un grade de l'enseignement supérieur. Donc déjà on a un paradoxe, mais il est vrai qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui est agrégé et qui veut obtenir un poste dans l'enseignement supérieur, c'est absolument indispensable. Mais ça pose quand même un problème dans l'évolution du paysage universitaire actuel, c'est que c'est un concours qui ne valide pas et qui n'examine pas des capacités de recherche qui sont fortement mises en avant dans l'enseignement supérieur aujourd'hui et qui sont très recherchées par les présidents. Et la dernière actualité institutionnelle en date sur ce sujet, c'est que Thierry Mandon à trouver une solution à l'insertion des docteurs.
Thierry Mandon, faut-il le rappeler, le secrétaire d'État
à l'enseignement supérieur et à la recherche, il a proposé récemment que un quota soit réservé pour les docteurs dans les concours de l'agrégation, à peu près à hauteur de 15%, sans pour autant qu'on augmente le nombre de postes dévolus. Et cette proposition a fait vivement réagir la Société des agrégés, mais Blanche Lockman vous le dirait mieux que moi, évidemment.
Blanche, je vais vous demander de prendre des notes, de garder ces sujets pour tout à l'heure, parce que Marie-Caroline a extrêmement bien posé les enjeux de l'agrégation aujourd'hui. Je voudrais qu'on les examine aussi à la lumière de son histoire. C'est une histoire bien particulière que celle des débuts de l'agrégation, qui est aussi à l'histoire universitaire française. On retourne en 1766, Claude Lelièvre.
Oui, on pourrait s'imaginer que l'agrégation, compte tenu qu'elle a duré 250 ans, et qu'elle va certainement pas s'écouler demain, et a eu un début relativement stable et une reconnaissance immédiate. Or, on s'aperçoit que ça a été extrêmement mouvementé pendant assez longtemps. Dire que c'était loin d'être gagné d'avance. D'abord, c'est une mesure à la limite conjoncturelle. Soudainement, les jésuites sont renvoyés de France. Bon, ils sont le dessus du pavé en ce qui concerne l'enseignement secondaire en France à l'époque. C'est des grands collèges. Bien, en urgence, un concours, pourquoi un concours, ça c'est aussi mystérieux, est institué pour les collèges parisiens et dans trois domaines, à savoir les classes de philosophie, de belles-lettres et de grammaire. La base de l'humanisme littéraire.
Les humanités,
les humanités classiques, comme on dit maintenant. Et on doit mettre des arts pour passer. Et ce qui est aussi remarquable, donc c'est la forme d'un concours, mais on devient stagiaire, mais on ne devient pas professeur. C'est-à-dire que les agrégés, au départ, ce n'est pas le dessus du panier, puisqu'ils se trouvent en attente d'un poste.
En attente de remplacer...
De remplacer quelqu'un. Ils sont au fond des sortes de remplaçants, de titulaires remplaçants, en attendant d'avoir une chaire. Donc, finalement, sous l'Ancien Régime, il va y avoir 200 agrégés qui vont être recrutés par concours. Donc, il y a un concours relativement régulier chaque année. La République arrive, et contrairement à ce qu'on croit, la République n'a pas été pour ce concours. Elle n'a pas été pour l'ensemble, d'ailleurs, des institutions de type universitaire, comme on disait à l'époque, qui étaient là. Donc, en 1793, il n'y a plus ni concours, ni agrégé, ni agrégation. C'est terminé. L'agrégation, donc, n'est pas d'une création républicaine forte au départ. On reviendra peut-être là-dessus. L'agrégation réapparaît sous l'Empire, dans un décret qui crée l'université. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'appellation, parce que sans quoi on n'y comprend rien. L'université, c'est en fait l'organisation du secondaire. C'est pas tout à fait vrai. Mais c'était de ça qu'il s'agissait. Et le décret qui crée l'université, c'est-à-dire la façon d'encadrer le secondaire, crée des agrégés.
Donc on ressuscite l'agrégation.
L'agrégation est ressuscitée, mais pas le concours.
Blanche Lockmann.
Oui, non, je voulais dire, parce que j'avais une petite citation justement de la loi relative à la formation d'une université impériale qui dit « l'institution utile des agrégés au professorat ». Il s'agit de rétablir une institution utile.
Utile au professeur, et à mon avis, particulièrement utile aux professeurs titulaires, car ils sont là pour les remplacer et éventuellement dédoubler les classes. Donc ce sont des adjoints. La vraie restauration
de l'agrégation,
c'est sous la restauration royaliste, où là, les concours réapparaissent. Mais ce sont des concours académiques, il n'y a pas de concours nationaux.
Et quand est-ce jurys. Que l'agrég devient un concours national ?
Elle le devient en 1830. Tout à coup, le concours de Paris, devient un concours national. Et pour la première fois, ce sont des concours nationaux, du moins au départ pour les écrits et les oraux. Après, il y aurait une certaine décentralisation pour les oraux. C'est-à-dire que là, on n'est plus nommé dans un lycée, on n'est plus agrégé par concours pour une académie ou mais on est pour l'ensemble de la France. Cela dit, c'est toujours un concours interne. Car ce n'est pas dit, mais c'est
oui,
un concours interne.
Au départ, c'est un concours interne. Alors,
c'est-à-dire qu'on ne peut pas se présenter à l'agrégation si on n'a pas déjà enseigné pendant au moins 3 ans ou qu'on n'est pas issu de l'école normale supérieure d'Ilm. Vous voyez à quel point ça a changé, c'est très éloigné de l'aspect canonique actuel et que cette irruption de l'agrégation n'est pas sortie de la cuisse de Jupiter. Ce n'est pas quelque chose de démiurgique, ce n'est pas quelque chose de particulièrement stable et qui s'impose de façon nécessaire et universelle, car c'est souvent des catégories ça, des agrégés, l'universel, etc. Non, ce sont des mouvements historiques compliqués.
Blanche Lockmann, vous pouvez répondre
oui,
à ce que
j'ai
vous
deux
prétendez
remarques,
à l'universalisme,
en fait.
Et surtout sur la plasticité, et sur cette idée qu'avant c'était un concours interne, donc pour des gens qui avaient déjà enseigné, quand aujourd'hui, faut-il le rappeler, l'agrégation interne est un petit peu moins prestigieuse, un tout petit peu moins.
Non, ça, je peux pas.
Évidemment, c'est pas vous qui allez le dire.
Non, non. En fait, j'ai deux remarques. La première, c'est que pour la notion de concours interne, en réalité, il y a eu des évolutions à l'intérieur des grandes dates qu'on a données là. Et en fait, cette exigence d'avoir des agrégés qui soient au moins enseignants depuis 3 ans et qui aient au moins 25 ans, c'est au moment du Second Empire, il y a eu une reprise en main à un moment de l'agrégation avec des liens, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais avec la discussion sur les liens que devaient avoir les professeurs et le pouvoir, et l'agrégation de philosophie a vraiment été le lieu de discussion de ces questions-là. Et il y a eu une reprise en main en 1852 parce que le ministre de Napoléon III considérait qu'il fallait absolument surveiller les professeurs de philosophie. Et donc, il y a eu une suppression pendant un an de tous les concours d'agrégation, le temps de tout remettre au pas, de changer les textes, de considérer qu'il fallait prendre des gens déjà formés, surtout évacuer les normaliens qui étaient considérés comme des troubles faits. Maintenant, ma deuxième remarque, ce serait de dire que malgré tout, j'y vois quelques principes qui demeurent. Notamment, l'aspect du recrutement sur le mérite, quand même, dès le départ, c'est intéressant de voir les sujets des premières agrégations. J'ai apporté 2 sujets.
Alors, le mérite est lié à la notion de concours.
À la notion de concours et d'excellence demandée aux candidats.
Non, mais ce que je retiens, évidemment, c'est que dans le système éducatif français, la notion de mérite et la notion de concours se superposent. Blanche Lockmann, donnez-nous un sujet.
Oui, alors en 1766, alors je ne vous lis pas le latin, hein, je vous dis directement en français.
Je vous en remercie.
Y a-t-il, à côté de la certitude métaphysique, une autre certitude qui écarte tout risque d'erreur? Ça, c'est un des sujets. Alors le deuxième sujet, la loi de la gravitation est-elle universelle et s'applique-t-elle à tous les corps dans leurs relations mutuelles? Et on voit qu'au départ, la philosophie, elle englobait aussi la réflexion scientifique. Il y avait une seule agrégation pour philosophie, science, théologie.
Il n'y avait pas d'agrégation de sciences. Magnifique sujet, peut-être moins difficile, en tout cas pour des auditeurs d'aujourd'hui, que celui de 1971, par exemple, Claude Lelièvre. Ce qu'on voit aussi, et ce qui décrit une certaine évolution de l'école et du système éducatif, ce sont les nouveaux domaines de l'agrégation. Vous l'avez dit au départ, 3 disciplines, puis une agrégation qui va s'étendre à tous les champs couverts par le système scolaire.
Je signale quand même que l'agrégation de sciences est ouverte en 1830, donc bien avant le Second Empire. Ça, c'est très compliqué de savoir ce qui est de l'ordre de la philosophie telle qu'on la conçoit à tel ou tel moment, et puis ensuite les rapports disciplinaires et les concours disciplinaires. D'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est un sujet très passionnant, parce qu'on voit que les répartitions disciplinaires, là aussi, ne sont loin d'être universelles dans le temps. Et donc, on ferait bien d'y réfléchir quand on parle d'interdisciplinarité, de pluridisciplinarité. Il n'y a pas gravé dans le marbre des disciplines. Bon, donc on le voit bien, et d'ailleurs on le voit bien à travers la multiplication des disciplines.
Donc en 1831, l'histoire.
Oui. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans la prolifération, si on peut dire, la diversification disciplinaire, parce que c'est une diversification disciplinaire de l'agrégation, c'est qu'elle ne se fait pas dans n'importe quel ordre. On a d'abord, en gros, lettres et grammaire avec un peu philo. En 1821, on a celle de sciences, toutes catégories confondues, avec les mathématiques, bien entendu. Suivent celle de philosophie en 1825, puis d'histoire en 1831. En 1849, apparition d'agrégations de langues vivantes, pas n'importe lesquelles, anglais et allemand, mais pas italien ou espagnol. Là aussi, ça ne se fait pas dans n'importe quel ordre. L'agrégation de sciences ensuite se dédouble en agrégation de mathématiques et agrégation de sciences en 1841, qui se scinde elle-même en agrégation de sciences physiques et agrégation de sciences naturelles en 1885, suivent celles d'espagnol et d'italien en 1900, d'arabe en 1907, de russe en 1947. Il faut attendre 1960 pour que soit décidée une agrégation de lettres modernes. Voilà quelque chose d'intéressant, quasiment 2 siècles. En 1962, alors, ça c'était intéressant, création d'une agrégation de techniques économiques et de gestion, transformée en 80 en économie et gestion, suivent celle de mécanique en 1968, de génie civil, de génie électrique, de génie mécanique en 1975. L'agrégation d'éducation musicale apparaît enfin en 1974, celle d'art plastique en 1975. en 1977 est créée une agrégation de sciences sociales, enfin elles arrivent. L'éducation physique et sportive ferme la marche, plus par exemple récemment, par exemple l'agrégation de sciences médico-sociales qui vient d'arriver. Eh bien, quand on regarde cela, ce qui me frappe, moi, c'est qu'on a un feuilleté qui est un feuilleté qui n'arrive pas par hasard et qui est en gros une sorte de classement, non seulement historique, mais en fond de prestige des différentes disciplines.
Et qui raconte
d'abord
l'histoire de l'école.
Les humanités classiques. Et enfin, les disciplines, je dirais, de pratique, artistique ou physique, musique, art, plastique, éducation physique et sportive.
Marie-Caroline Missière.
On voit bien, en vous écoutant retracer l'histoire de l'agrégation, que la question que pose l'agrégation aujourd'hui, c'est celle de la structuration disciplinaire de l'école, qui commence un petit peu à craquer. On l'a très bien vu avec la réforme du collège, vous l'avez évoqué quand vous avez posé la question de l'interdisciplinarité. Quand on parle aujourd'hui de nouvelles méthodes pédagogiques ou d'innovations pédagogiques qui transcendent ou qui traversent un petit peu toutes les disciplines, quand les profs doivent travailler ensemble, et qu'on a un concours, en l'occurrence l'agrégation, qui est totalement structuré et pensé pour valoriser l'excellence disciplinaire. Ça interroge quand même le devenir de l'école. Que sera l'agrégation demain si l'école évolue, comme elle doit évoluer, sur la valorisation des compétences, sur la valorisation de la capacité à transmettre, à enseigner, sur la pédagogie? Est-ce que ça résiste tout
ça? Et vous regardez Blanche Lockman, présidente de la Société des agrégés de l'université, qui a déjà réagi sur la réforme du collège et qui va sûrement réagir là tout de suite sur ce sujet-là. L'excellence scolaire, c'est l'excellence disciplinaire. C'est ça que raconte ce concours de l'agrégation.
Oui, mais je prendrais pas tout à fait les choses de cette façon. Moi, j'y vois pas vraiment un feuilletage ou une hiérarchie. J'y vois plutôt une évolution avec les savoirs, une évolution avec la science, et donc une évolution de l'agrégation qui est parallèle à celle de la société. Et puis, alors à propos de l'exigence disciplinaire, faut pas non plus tout confondre. On est bien obligé aussi d'avoir un certain nombre de catégories pour apprendre et pour se former. Ça veut pas dire que les professeurs dans les établissements ne travaillent pas ensemble entre disciplines. Par ailleurs, il y a des disciplines d'agrégation qui sont multidisciplinaires. Moi, j'ai passé l'agrégation de lettres classiques, c'est-à-dire que j'ai fait à la fois du latin, du grec et du français. C'est trois disciplines différentes. Il y a des agrégations, l'agrégation interne d'histoire et géographie, il y a l'histoire et la géographie. Et puis, ce qu'on oublie aussi parfois, parce qu'on ne va pas forcément dans le détail de l'organisation du concours, c'est que ces agrégations ne sont pas monodisciplinaires. L'agrégation de philosophie, par exemple, il y a une épreuve de langue vivante. Je vous ai apporté le programme de l'option art plastique de la section art. Eh bien, il y a une épreuve d'esthétique, c'est-à-dire que au moment où on passe l'agrégation d'art plastique, il y a effectivement des épreuves pratiques d'art plastique, mais il y a aussi une épreuve d'esthétique. Donc on réfléchit, il y a une dimension philosophique dans l'agrégation d'art plastique. Donc je pense que c'est pas aussi...
Mais rassurez-nous, aussi... Blanche Lockman, vous n'avez pas changé depuis la dernière fois qu'on vous a sur ce plateau. Vous défendez bien la discipline comme la manière canonique d'envisager le savoir à l'école.
Oui, mais parce que tout simplement, c'est la chose la plus simple. C'est plus simple d'organiser des travaux entre personnes de disciplines bien déterminées que d'avoir des disciplines fourre-tout. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que la spécialisation du concours, elle est allée avec l'élévation du niveau des professeurs. Et c'est ce que nous dit André Chervel dans son ouvrage sur l'agrégation. Il y a, avec la spécialisation du professeur, une élévation du niveau d'enseignement. Donc, moi, je pense que c'est pas forcément un mal qu'il y ait des disciplines définies de cette façon, sachant, encore une fois, qu'à l'intérieur de chaque section, il y a un accès à plusieurs disciplines.
Alors, on était sur l'histoire de l'agrégation. Dans l'histoire de l'école, il y a aussi un autre concours, celui du CAPES, créé en 1950. Donc, deux concours cohabitent pour accéder au professorat du second degré. D'aucuns y voient une contradiction, ou du moins une hiérarchie entre les professeurs, puisque les conditions d'enseignement entre les agrégés et les capétiens ne sont pas les mêmes. Les agrégés sont mieux payés, font moins d'heures. Et ça reste un point de tension, encore et toujours, dans l'éducation nationale. Claude Lelièvre.
Il y a eu deux CAPES. On a inventé le CAPES pour, disons, ceux qui ne sont pas de la noblesse d'État, c'est-à-dire les agrégés. Car, comme disait Bourdieu, il y a la noblesse d'État, puis il y a les plébéiens. Eh bien, on a inventé le CAPES. Mais ce qui est remarquable, à mes yeux, et qui est central, c'est que le premier CAPES comprenait, bien sûr, deux parties. Premièrement, une partie pratique dont les épreuves ne peuvent être subies qu'au cours de la seconde année d'un stage d'au moins 2 années scolaires dans un collège ou un lycée. Deuxièmement, une partie théorique. On était donc d'abord recruté sur des épreuves pratiques. À partir de stages pratiques, le stagiaire, pourvu de conseiller pédagogique, apprend son métier. C'est la preuve de cet apprentissage qu'on lui demandera au terme de son stage. Le succès dépendra donc beaucoup moins, le succès, aux épreuves théoriques, d'une préparation intensive et livresque que de l'application au travail quotidien et de la réflexion personnelle sur ses conditions. Ça, c'est la prose du directeur Gustave Monod, qui était sur la lancée de la libération et du plan Langevin-Wallon. Tout à coup, deuxième mouture, 2 ans après, il y a un autre directeur de l'enseignement secondaire, Bruno, qui est un adhérent de la Société des agrégés, et qui fait changer le décret. Et nous avons le CAPES de maintenant. Le décret de janvier 52 dit « Le concours pour l'obtention du CAPES comprend 2 parties indépendantes. Premièrement, une partie théorique, qui comporte des épreuves écrites et une épreuve orale. C'est la base de notre concours actuel. Deuxièmement, une partie pratique soutenue 1 an après le succès de la théorie, la partie théorique. Et l'inspecteur général Campan commente dans le journal officiel cette inversion. Une caractéristique essentielle du nouveau système du CAPES, c'est sa liaison étroite avec le concours de l'agrégation. Autrement dit, c'est le modèle de l'agrégation et la crainte qu'il y ait une restriction de la préparation et du nombre de gens se préparant à l'agrégation qui a fait que le CAPES, que nous connaissons toujours, commence par un recrutement du côté théorique et ensuite envisage des épreuves pratiques. Alors que le premier était à l'inverse dans la suite et la mouvance des nouveautés de la Libération et du plan Langevin-Wallon.
France Culture,
rue des Écoles,
Louise Touré.
Blanche Lockmann, sur, vous avez peut-être beaucoup de choses à dire.
J'ai beaucoup de choses à dire.
Sur ce reproche qui est souvent fait à l'agrégation de peu préparer à la situation d'enseignement. C'est un reproche qui fait au CAPES aussi d'une certaine manière, mais on parle de l'agrégation et c'est encore plus accentué puisqu'il n'y a pas de stage pratique. On est excellent dans sa discipline. Est-ce que ça donne des capacités à enseigner au lycée et parfois même au collège ?
Alors, comme on a pris une perspective historique, j'aimerais bien aussi répondre un peu sur le plan historique parce que je trouve intéressant d'adopter un autre angle de vue sur justement l'aspect pédagogique. Quand on regarde l'évolution du concours de l'agrégation, qui effectivement a beaucoup évolué, mais qui encore une fois n'a quand même pas au cours de son histoire mouvementée été toujours interne, il y a eu des alliés, des venus, on voit que finalement, la considération de la pédagogie prend plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect de une sorte de refus d'une pensée intellectuelle et universitaire, mais qui va parfois de pair avec la volonté de reprendre en main l'organisation du concours. Et on voit en 1830 la dénonciation, notamment pour l'agrégation de philosophie dont je parlais tout à l'heure, de la surveillance inquiète et ombrageuse du gouvernement. En réalité, les épreuves de pédagogie ou la discussion sur le fait que le professeur de philosophie doit d'abord enseigner à de bons pères de famille et pas à de futurs philosophes, elle va de pair en fait avec une surveillance du concours par le pouvoir. Ça, c'est, vous allez me dire que c'est peut-être une interprétation personnelle, mais c'est ce que je tire de mes différentes lectures. Il y a un autre moment où on voit apparaître la définition de la pédagogie à l'agrégation, c'est au moment de la création de l'agrégation féminine et puis des progrès de l'enseignement féminin au fur et à mesure des années, notamment dans le rapport d'un président de jury d'agrégation en 1890 qui dit Ce que nous tenons à susciter et à entretenir donc chez les jeunes femmes, hein, à côté des connaissances positives et du talent de les communiquer, c'est le sens éducatif, c'est la faculté spéciale, toujours rare, de faire jaillir de tout un enseignement, c'est-à-dire un principe de conduite ou tout au moins un sentiment moral, une disposition à bien faire, un état supérieur de la volonté et de la conscience en vue des devoirs propres à la jeune fille et à la femme. Donc s'il y a une méfiance vis-à-vis...
C'est terrible
parce que finalement, au moment même où on se dit qu'on va accompagner l'émancipation des femmes par les concours, eh bien, il y a un ton qui est un tout petit peu condescendant dans les débuts. Mais ce qui veut dire que les agrégés, finalement, sont toujours un petit peu méfiants par rapport à la pédagogie, parce que très souvent...
Donc la méfiance est historique.
La méfiance est historique, parce que très souvent, on l'a opposée de façon un peu brutale, soit avec les femmes, soit avec la surveillance de l'État sur le concours, au savoir, l'idée étant chez les agrégés que finalement la connaissance disciplinaire, c'est le seul domaine sur lequel on ne peut pas avoir prise. L'extérieur ne peut pas avoir prise.
Pureté de la connaissance disciplinaire, voilà, c'est un argument.
Pureté de la connaissance disciplinaire dans le cadre d'une évaluation.
D'aujourd'hui, 2016.
Je dirais même chose, on l'a vu avec l'épreuve agir en fonctionnaire de l'État. Et de manière éthique et responsable. Il y a eu une résistance
au concours
qui a été supprimée depuis.
Voilà, qui a été, je parle sous le contrôle de Marie-Caroline Missire, qui a débuté sous le mandat de Nicolas Sarkozy.
En 2011.
Pour les concours enseignants.
Pour les concours enseignants.
Il fallait répondre de sa bonne morale civique et citoyenne et de fonctionnaire en tant qu'enseignant.
Et sur des questions pratiques, parfois, avec des cas pratiques. Et ça a tout de suite été perçu, justement, comme une dénaturation du concours, dans la mesure où, finalement, l'introduction de cette épreuve tendait à donner la priorité à une doxa sur les connaissances disciplinaires.
Mais ça, on entend bien. Mais en quoi est-ce que c'est un problème pour, et certains en parlent tout de même, pour les agrégés, d'arriver en cours, faire ses premiers cours, si peu préparés à la situation de classe?
Alors,
c'est un reproche, c'est une réflexion qu'on entend tout de même très souvent et depuis fort longtemps. Blanche Luckmann, vous le savez mieux que moi.
Très sincèrement, je ne pense pas qu'ils arrivent moins préparés à la situation de classe que les certifiés qui ont un tout petit peu plus d'épreuves pratiques. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle épreuve pratique dans les concours, c'est en fait une fiction. C'est-à-dire on vous propose de faire une fiction de cours. Ça n'a pas de réalité.
Comme ce que racontait Claude Lelièvre, cet oral.
Parce que les conditions pratiques font qu'on ne peut pas faire autrement que de faire une fiction de cours. Et les situations d'enseignement sont tellement différentes, les classes sont différentes, les établissements, les différentes fonctions qu'un professeur peut avoir du lycée jusqu'aux premières classes de l'université sont tellement diverses que ça ne peut être que de la fiction. Donc c'est au nom de ça que la société des agrégés, je vais le dire, a souvent refusé cette mainmise de la pédagogie dans la mesure où on est dans une phase de sélection et on ne voit pas comment il est possible de sélectionner de façon rationnelle sur des exercices de fiction. Voilà, c'est le point de vue de la société des agrégés, que
donc,
je défends ici.
Le vôtre, Claude Lelièvre.
Mais c'est normal qu'il y ait très peu de différence entre le CAPES et l'agrégation, puisque le CAPES, tel qu'il a été fait, a éliminé pratiquement la possibilité d'avoir une véritable formation professionnelle en inversant et en recopiant d'abord les pratiques. Donc, au lieu que ce soit d'abord les pratiques et ensuite des réflexions sur les pratiques pendant 2 ou 3 ans, le premier modèle du CAPES a été éliminé au profit de celui de l'agrég, et donc c'est normal que vous voyez dans les épreuves actuelles du CAPES en partie une fiction, comme pour l'agrégation. Mais c'est à cause justement de ce renversement.
Poids de l'agrégation sur les concours et donc sur les enseignants.
C'est une vieille question, c'est-à-dire que on nous fait croire actuellement que c'est un problème nouveau, que ces affrontements sont des affrontements nouveaux, alors qu'ils sont là dès le moment, je dirais, de l'agrég canonique. Vous savez, l'avis, celui du roman national.
Oui, des
petits l'avis. L'avis qui disait que dans la formation des enseignants, donc il fallait qu'à la fac, il y ait des relations avec les pratiques dès la fac, avant de passer les concours. Et il disait en plus que il fallait aussi des connaissances spécifiques pour les futurs professeurs dans des domaines très divers, de la psychologie à l'histoire, de la sociologie à la physiologie, et il s'insurgeait particulièrement, je cite, « contre l'objection préalable que les qualités essentielles de l'éducateur ne s'enseignent ni ne s'acquièrent ». Or, si on entend quelque chose de cet ordre de façon constante, c'est bien ça. C'est bien l'idée que, pour l'essentiel, les qualités essentielles de l'éducateur ne s'enseignent pas et ne s'acquièrent pas. On a plus ou moins des dons pour ça, et c'est le pratico-pratique, l'expérience, on ne sait quoi, qui va régler. C'était pas l'avis de Lavis. Alors, Lavis a peut-être tort. Je dis simplement...
Mais ça reste un débat très contemporain. Je dis que c'est un débat dont on nous fait croire
que c'est un débat contemporain parce qu'il y aurait des déclinologues ou qu'il y aurait des gens démagogues et autres, alors que c'est un débat qui était porté par les grands républicains dès le départ.
Ah, débat contemporain ne signifie pas que ce n'est pas un débat ancien. Oui, disons qu'il est toujours vivant. Marie-Caroline Missier.
Je pose une question à ce stade de la discussion. Pourquoi pas fusionner les concours? Pourquoi on n'aurait pas un seul concours? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué? Dites-nous. Il y a même une époque où il y avait deux salles de classe. Une pour les titulaires du CAPES.
Ça, c'est la légende.
Claude Neuliem nous répondra là-dessus. Alors, mais ça serait quand même plus simple pour les étudiants, d'ailleurs. Pensons à eux aussi.
Et ça nous a quand même déjà été raconté, évidemment. Je ne dis pas que c'était le cas partout. Mais il y a la première classe des agrégés et la seconde classe des certifiés. Il y a eu, Blanche.
Moi, je ne l'ai jamais vu, très sincèrement. Je me méfie un peu du fauteuil de l'agrégé, de la table des agrégés, parce que j'ai jamais vu ça en acte. Je voudrais revenir juste sur cette discussion. La question, c'est finalement de savoir si bien enseigner, c'est un art ou une science, finalement. C'est-à-dire, est-ce que c'est une pratique ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend ? Il y a plusieurs problèmes quand même dans la formation quand on oppose pratique et théorie. Parce qu'il y a la pratique, il y a la théorie et puis il y a la théorie de la pratique. Bon, nous, notre position a toujours été claire. On considère qu'il faut sélectionner sur ce qui est simple à voir et ce qui est rationnel et ce qui est objectif, c'est-à-dire les connaissances disciplinaires. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, engager une formation, mais cette fois-ci purement pratique. Vous avez dans la formation d'un professeur plusieurs éléments. Donc les connaissances sur lesquelles il sera sélectionné de cette façon, on rentre directement dans un cadre clair. Et ensuite, il y a sa pratique pédagogique en classe. Et puis, il y a aussi tout ce qui va l'aider à s'améliorer. Or, aujourd'hui, dans la formation telle qu'elle existe actuellement, on a la connaissance, on a de la théorie de la pratique dans les SP. Et puis, finalement, on a très peu d'aide sur le terrain à la pratique. Et on a très peu aussi de cours directement pratiques. C'est-à-dire que on pourrait se dire, un professeur, il a besoin...
Ce que vous pourriez demander à la limite, c'est de l'accompagnement en début de carrière.
Alors, l'accompagnement en début de carrière est surtout effectué par un tuteur qui n'évalue pas en même temps le professeur, parce qu'on a beaucoup de cas où un stagiaire a du mal à communiquer avec son tuteur parce qu'il se sent déjà jugé et il se dit je ne peux pas lui dire que j'ai des difficultés puisque c'est lui qui va en particulier ou enfin parmi d'autres examinateurs mais qui va me noter. Et puis il y a aussi tout un accompagnement qui devrait être effectué par des spécialistes, comment je pose ma voix, comment je me comporte dans une classe pour faire preuve d'autorité. Donc on n'est pas opposé à ce qui est quelque chose d'extrêmement pratique, mais ce qui pose parfois problème, c'est de considérer que l'enseignement est une science et du coup d'avoir une théorie de la pratique qui parfois a du mal à aider les professeurs.
Carrosse vers l'Ambicotal, sur deux animaux à bosse arrachés de métal. La princesse du Waziristan dormait à mes côtés, sur un petit coussin d'argent, sa nuque était posée. Dans une grande forêt de santal, au pied d'un cornouiller, elle avait perdu sa sandale, j'étais agenouillé. branche au pelage rayé. Sur la princesse, je me penche, je me suis réveillé. Je me suis réveillé, je me suis réveillé. Cet animal était blessé, il a voulu me suivre. Partout les tentes étaient dressées sur des montants de cuivre. Magique ou l'idée, mon carmin, la passe était fermée. J'ai voulu caresser sa main, je me suis réveillé, je me suis réveillé.
Gérard Mancé, vous écoutez Rue des Écoles sur France Culture. En ce 1er mai, nous parlons du travail, d'une certaine manière, travail énorme que nécessite la préparation du concours de l'agrégation, un concours qui a 250 ans cette année. Sur le dos d'une bête à bord. Concernant les agrégés au collège, Marie-Caroline Missière en parlait tout à l'heure, c'est un débat aujourd'hui, on l'a vu affleurer dans la presse, à l'occasion de ces 250 ans, c'est vrai qu'on a un peu plus parlé de l'agrégation, je pense à un dossier de la Croix, les agrégés n'auraient pas leur place au collège, d'aucuns le disent. Enfin, tout de même, je vais vous faire écouter une enseignante. Elle était dans Rue des Écoles le 6 mars.
Je suis agrégée et je ne suis pas au lycée par choix. Je suis très heureuse d'enseigner au collège. J'y suis bien. Et si j'ai passé l'agrég, c'était par amour de la discipline. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt et j'y trouve mon compte d'enseigner au collège. C'est pas moins bien, moins prestigieux comme mission que d'enseigner au lycée.
Gaëlle Frillet, professeure d'anglais au collège, donc, dont l'opinion ne semble pas refléter celle de vos adhérents, par exemple, Blanche Lockman. Vous aviez fait un sondage, beaucoup d'agrégés sont aujourd'hui mécontents de leur situation.
Moi, si vous voulez, encore une fois, ici, j'ai la position sur cette question-là, la position de l'élu. Donc, tout simplement, je suis élue par mes adhérents, je constate que dans leur majorité, et en particulier dans les jeunes générations, ils n'ont pas passé l'agrégation avec d'autres buts que d'enseigner au lycée dans l'enseignement supérieur, comme ça leur est annoncé et promis sur le site du ministère de l'Éducation nationale dans la présentation de la fiche des agrégés, et comme c'est énoncé dans le texte de 72 sur le statut particulier des agrégés. Donc ensuite, peut-être qu'il y a des agrégés heureux en collège, et notre but, c'est pas d'aller les chercher et de les faire sortir du collège à toute force.
Que disait-il ce sondage ? Je m'en souviens, mais je voudrais que ce soit vous qui le disiez, sur l'état d'esprit des agrégés aujourd'hui.
Vous parlez du malaise enseignant, du rapport sur le malaise enseignant qu'on avait publié en 2011. L'idée, c'était qu'ils voulaient conserver une activité intellectuelle dans l'exercice de leurs fonctions. Et encore une fois, la plupart d'entre eux avaient pour objectif, en passant l'agrégation, parce que justement il y a deux concours et qu'ils s'imaginaient,
et qu'ils
comme le ministère leur dit, qu'ils enseigneraient plutôt au lycée. Voilà, ils attendaient ça. Maintenant, qu'il y ait quelques professeurs agrégés qui souhaitent enseigner en collège, encore une fois, l'objectif, ça n'est pas d'aller les chercher et de les sortir du collège. Moi, simplement, j'exprime l'avis de mes adhérents en tant qu'élu.
Je ne sais pas s'ils souhaitent enseigner au collège. Pour la plupart, c'est surtout un gros problème de ressources humaines qui a été très bien pointé par le rapport de la Cour des comptes de 2013, Gérer les enseignants autrement, et qui rappelle qu'en fait, on a une situation qui est un peu problématique en termes de RH, avec, dans les mêmes classes, et quelquefois pour les mêmes disciplines, des enseignants qui font un volume horaire supérieur et qui sont payés moins quand on a des certifiés et des agrégés au collège. Donc, ça pose un problème de gestion.
Oui, Marie-Caroline, le fameux système des 18 heures pour les certifiés et 15 heures pour les agrégés. C'est une situation d'inégalité.
Oui, mais enfin, que la Cour des comptes, je ne suis pas certaine que la Cour des comptes les pose exactement dans ces termes-là, parce qu'elle a surtout conclu qu'il fallait que les agrégés soient affectés au lycée. Mais qu'il y ait des différences dans les statuts de la fonction publique avec des gens qui occupent les mêmes fonctions en étant payés différemment, c'est classique. Et ça existe aussi dans le secteur privé. Donc
mais le statut de la fonction publique évolue aussi en ce moment.
Oui, mais bon, en fonction du concours que vous avez passé ou bien dans le privé, en fonction de l'école que vous avez faite, vous avez, avec la même tâche, parfois des salaires différents. Donc ça, c'est pas différent dans l'éducation nationale par rapport à d'autres secteurs.
On retrouve le problème de l'élitisme à la française et de la formation à la française.
Une des raisons, je dis.
Claude Lelièvre.
Une des raisons, justement, des horaires des agrégés par rapport aux certifiés et des rémunérations, c'était qu'au départ, ils étaient dans les lycées et pas dans les collèges. Et dans les lycées, il y avait par classe beaucoup d'élèves par rapport au collège.
Quand on dit beaucoup, on parle d'une époque où c'était
une époque où
50, 60 élèves.
Les centraux, ils pouvaient être 30, 40, 50, alors que dans les collèges, ça pouvait arriver à être 6, 7. Donc, partant de là, parce qu'il y avait des grandes différences, en particulier pour les corrections de copies, c'est une des raisons, ce n'est pas la seule, de la disparité, celles sont des avantages acquis qui durent.
Oui,
alors qu'éventuellement, les raisons ont disparu.
Non, mais les raisons n'ont pas forcément disparu, parce qu'au lycée, vous avez des classes d'examen, alors qu'au collège, il n'y en a pas.
Au niveau des collèges.
Mais moi, si vous voulez, ce qui me gêne toujours dans cette discussion, c'est de voir les agrégés sommés de s'expliquer sur leur statut, sur leur salaire, sur leur façon de fonctionner, là où, très nettement, il y a un problème de DRH. Donc c'est quand même toujours un petit peu, pour les agrégés, humiliant ou vexant de se voir comme ça montrer du doigt. Alors, hein, vous gagnez trop, vous travaillez pas assez.
Bon, on est tous les deux agrégés. On n'est pas humiliés, on sait qu'on est de la noblesse d'État.
C'est simplement l'agrégation des problèmes plus larges dans l'éducation
alors,
nationale.
Alors en revanche,
oui,
voilà,
on peut souligner que ça n'a pas été dit comme ça dans cette émission.
Non, mais je parle en général. Quand on parle du débat, c'est vrai que ça arrive un petit peu parfois comme ça. Oui, il y a des problèmes de RH de façon générale dans l'éducation nationale avec de grands chantiers qui pourraient être à prévoir.
Cela dit, ça pose quand même un problème parce qu'au départ, dans les lycées, si on prend l'entre-deux-guerres, ça marchait puisqu'en gros, en principe, ça ne devait être que des agrégés. Il paraît qu'il fallait des agrégés dans les lycées, les collèges, tant pis, se débrouillaient comme ils pouvaient. Mais il y avait en gros les deux tiers ou les trois quarts des enseignants dans les lycées qui étaient des agrégés dans l'entre-deux-guerres. Maintenant, on en est à 13% dans le public d'agrégés au total, dans le corps professoral. Donc, on pourrait se dire que, comme vous, alors, que ben, peut-être que la question se pose d'une optimisation, puisqu'ils sont nettement moins nombreux, d'une optimisation de ceux qui sont là.
Questions posées, j'en ai plein d'autres, des questions et leur tourne. Concernant cet élitisme, hein, c'est Marie-Caroline qui a lancé le mot, c'est aussi un concours ultra sélectif qui sanctionne les meilleurs élèves, qui vont être, entre guillemets, les meilleurs enseignants ou parmi les meilleurs enseignants. Qui vont enseigner au lycée et parfois à l'université. C'est ça l'excellence, c'est de passer au tamis, très sélectif de l'école française. Est-ce que ça donne pas une note, un ton à la scolarité, un ton à l'académisme français? Finalement, être le meilleur, c'est survivre à un tri, à un concours où la plupart des candidats échouent, c'est ce qu'il faut quand même rappeler.
Oui, moi je suis pas d'accord avec ça évidemment, parce que vous faites comme si en fait aucune sélection n'existait de fait. Or l'idée du concours c'est d'organiser la sélection le mieux possible.
Pas de sélection, j'interroge ce type de sélection, je vous pose la question à vous.
Voilà, c'est ce type de sélection. Mais ce type de sélection, c'est comme on dit pour la démocratie, le moins mauvais des systèmes. C'est une sélection qui repose sur des raisons objectives. Moi ce que je remarque quand même, c'est pour le concours de l'agrégation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a une vaste publicité. Donc tout le monde est au courant de quand ça se passe, comment ça se passe. On peut lire les rapports de jury, on peut se faire un avis sur ce qui est demandé au concours, on peut éventuellement travailler tout seul. Finalement, tout est mis en place pour qu'il y ait la plus grande publicité, la plus grande connaissance possible de la façon dont c'est organisé, dont ça fonctionne, et pour qu'on puisse connaître ce qui est demandé aux candidats. Moi, je préfère évidemment une sélection qui fonctionne de cette façon plutôt que des examens confidentiels, pas tous les mêmes à tout endroit du territoire. Moi, encore une fois, ce que je constate
l'égalitarisme républicain. Je vais quand même
C'est l'équité devant les épreuves.
Je vais vous faire écouter l'extrait du film qu'on a entendu au début des agrégations, en deux mots. C'est l'élève qu'on entendait qui parle de ses difficultés dans son nouveau lycée alors qu'elle prépare l'agrégation. Elle s'appelle Chérienne et c'est le film de Noémie Sarfati.
Il y a eu un très très grand changement de passer d'un lycée à Sarcelles et de passer Henri IV. C'est vrai que eux-mêmes, certains élèves, la perception qu'ils avaient de la banlieue et tout, c'est... Et en fait, c'est la première fois que j'ai vu que je venais de banlieue. Que ma manière de parler était une manière de parler banlieusarde. Enfin, j'avais un élève qui m'imitait quand je parlais. Enfin, c'était pas méchant, mais enfin, tu sais, c'est vraiment là que tu te vois vraiment comment tu es.
Blanche Lockman, un concours républicain, équitable et qui tout de même, comme l'école française le fait en général, c'est pas du tout propre à l'agrégation, mais qui fait aussi un tri social. On retrouve dans les classes préparatoires des meilleurs lycées, un certain type d'élèves, ça correspond pas à la société française dans son ensemble. C'est ce que raconte un peu cette étudiante. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Il y a une grande diversité sociale dans les candidats et dans les lauréats de l'agrégation. Et quand on regarde les différentes disciplines, et quand on voit les résultats, on voit vraiment une grande diversité d'origine. Ce qu'elle disait sur l'accent, je vais vous donner une petite anecdote. Moi, je suis picarde.
On parle aujourd'hui de glottophobie, c'est un sujet
je
à la
suis
mode.
Picarde. Vous avez un accent. Malheureusement, l'accent picard n'est pas considéré comme très élégant par les Parisiens. Bon, on a fait la remarque en prépa, j'ai essayé de m'améliorer. Voilà, bon, ça c'est une anecdote. Je pense que c'est pas une question sociale, c'est une question un petit peu anecdotique. Mais vraiment... À la société d'agrégés, on défend la plus grande ouverture possible du concours. C'est pour ça d'ailleurs qu'on défend les bourses. Malheureusement, depuis quelques années, on n'a plus de bourses d'agrégation spécifiques. Il y a un système qui fait qu'on a un certain nombre d'années d'études qui sont payées par des bourses. Et puis si on passe l'agrégation au bout de quelques années, on sort du système et on n'est plus aidé. Alors, c'est ça aussi, on ne peut pas reprocher au concours quelque chose qu'on peut essayer d'améliorer par des moyens extérieurs. Donc, pour encourager la diversité et l'accès au concours, la publicité dont on parlait tout à l'heure, c'est absolument indispensable pour que tout le monde soit au courant. Et puis ensuite, il y a des moyens pour permettre aux jeunes qui le souhaitent de financer leurs études. Alors ça, c'est vraiment un combat, et qui est un combat de la société des agrégés depuis sa création. Parce que dès 1914, la première réaction...
C'est une centaine d'années seulement.
C'est une centaine d'années, mais dès 1914, la première réaction des agrégés qui fondent la société des agrégés, c'est un, nous voulons de bonnes conditions de travail, mais deux, attention, nous voulons que tout le monde puisse passer l'agrégation.
Ça a été une occasion de le dire rapidement. Quelles sont vos demandes aujourd'hui en ce qui concerne la place des agrégés, par exemple, à l'université, Blanche Lockmann ?
Alors déjà, ce qui est un peu compliqué, c'est que l'agrégé est partout à l'université. C'est-à-dire que l'agrégé peut être à l'université comme vacataire, il peut y être comme doctorant contractuel, il peut y être comme ater, il peut y être comme prague, ou bien il peut aussi être devenu, et là...
Alors,
être
Prague,
sorti
ce sont les
du
professeurs
corps,
du secondaire qui enseignent qui à l'université,
affectés,
mais qui gardent un peu leur statut d'enseignant du
voilà,
secondaire
ils ont,
et leur salaire.
Ils ont un statut du second degré, ils sont détachés. Enfin, ils sont affectés pendant longtemps. Ils ont un poste qui est un poste fixe, mais effectivement, ils viennent du second degré. Et puis, il y a aussi des professeurs et des maîtres de conférences qui sont sortis du corps des agrégés, mais qui sont lauréats de l'agrégation. Donc, il y a des agrégés à l'université sous toutes leurs formes, je pourrais dire. Alors, pour les Prague, par exemple, ce qu'on demande, c'est qu'ils soient recrutés prioritairement quand il y a des disciplines d'agrégation, par rapport à d'autres types de personnel enseignant. Ça, c'est par exemple une demande très concrète. On veut que les postes qui existent à l'université pour les enseignants du second degré soient réservés aux Prague. Pour le reste, il y a des demandes qui sont différentes en fonction des statuts, mais ça, c'est vraiment une demande essentielle. Et puis qu'on s'intéresse aussi à la carrière des Prague, parce qu'ils sont un petit peu dans un entre-deux qui rend leur situation difficile.
Qu'est-ce que ça vaut d'être agrégé aujourd'hui dans la société française quand on sort de l'école ? Est-ce que vous avez l'impression d'être titulaire d'un diplôme très prestigieux ? Est-ce que son prestige reste le même ? Claude Lelièvre.
Regardez les cartes de visite. On a parlé, là ça fait au moins un quart d'heure qu'on parle concours, mais tout ce qui a été dit aurait pu être dit pour les certifiés. Est-ce que c'est plus ou moins la forme concours est plus ou moins valable, le type de concours est le même, etc. Simplement, je ne connais aucun certifié qui met sur sa carte de visite certifié de l'université ou certifié de physique. Or, moi, je mets agrégé de philosophie. Je ne mets pas agrégé de l'université, d'ailleurs. Mais beaucoup mettent agrégé de l'université. Autrement dit, c'est un titre. C'est la noblesse.
Et les journalistes le précisent souvent,
c'est
d'ailleurs.
C'est la noblesse. Faisons attention, quand on parle de l'agrégation, il y a deux choses. La preuve, à ma grande surprise, quand je suis devenu maître de conférence, j'ai dû signer un texte comme quoi je renonçais à être dans le corps des agrégés. Je n'en revenais pas. Mais je me suis consolé en disant que je restais noble puisque je pouvais mettre...
Vous pouvez toujours le mettre sur votre carte de visite.
Sur ma carte de visite, en dessous de ce que j'étais, agrégé de l'université. C'est un titre.
Alors qu'à
c'est
l'étranger,
un titre de noblesse.
On dit qu'on est docteur, titulaire voilà. d'un doctorat sur sa carte de visite. C'est même comme ça qu'on s'appelle dans certains pays. Et en France, on reste isolé avec finalement ce concours.
Est-ce que je peux dire deux choses là-dessus ? Parce que un des problèmes, c'est à l'université, vous ne pouvez pas devenir maître de conf ou prof dans certaines disciplines si vous n'avez pas été agrégé auparavant. Rien à voir avec les Prague et autres. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un agrégé d'histoire, vous ne pouvez pas devenir un maître de conf en histoire. Bien entendu, théoriquement, oui, mais dans la réalité, non. Et ça montre qu'il y a une faiblesse de la reconnaissance des titres universitaires et en particulier du doctorat en France par rapport à d'autres pays.
Sujet dont on a parlé à de nombreuses reprises à l'étranger.
Sans quoi il n'y aurait pas ce système.
On dit qu'on est docteur, de toute façon, il n'y a pas d'agrégation ailleurs, ça nous isole un petit peu sur le plan académique et universitaire, Marie-Caroline Missia.
Oui, c'est bien le problème qui se pose aux universités aujourd'hui, qui sont dans un environnement mondial, une concurrence internationale très forte. Donc effectivement, pour répondre à votre question, est-ce que le titre d'agrégé est encore un diplôme très prestigieux qui permet d'accélérer l'insertion sur le marché du travail ? Je crois que en dehors de l'enseignement, c'est un peu comme le doctorat, c'est difficile.
On a les chiffres pour le doctorat, on n'a pas les chiffres précis pour l'agrégation. Les agrégés sortent du radar l'éducation nationale quand ils changent de métier.
Absolument, c'est bien tout le souci.
Mais je ne pense pas qu'ils aient vraiment de problème à trouver autre chose en dehors de l'éducation
nationale. C'est une bonne idée d'enquête, en tout cas. Ça me donne une idée d'enquête immédiatement.
Pour l'étudiant, un dernier mot. Pour finir, Claude Lelièvre, comment avez-vous fait pour décrocher votre agrégation alors que vous m'avez dit hors antenne, vous n'aviez suivi aucun cours ? Un petit conseil pour ceux qui préparent l'agrégation et qui nous écoutent.
À l'époque, j'étais PEGC, horreur pour un agrégé, c'est-à-dire...
Professeur des écoles, enseignant au collège.
Oui, j'étais en collège, une sorte d'instituteur monté en graines, de cours complémentaires où j'enseignais lettres, histoire, géo. Donc j'enseignais, mais en revanche, je m'intéressais toujours beaucoup à la fois à l'histoire et à la philo, car j'étais passionné par la philo. Il se trouve que je ne pouvais pas faire d'études à ce moment-là payées, donc je me suis présenté à la grecque de philo, alors que je passais mon temps à lire, je ne sais pas, ma Derrida, les philosophes modernes. Contrairement à ce qu'on pense, on peut donc réussir la grecque de philo en ayant travaillé surtout les philosophes modernes. Là aussi, c'est pas totalement vieillot, l'agrégation. Mais voilà, c'était la passion. C'est la passion.
Merci beaucoup, Claude Lelièvre. Je rappelle que vous êtes historien et philosophe. Oui. Blanche Lachmann.
Je voudrais juste terminer sur une petite citation amusante du philosophe Comte, qui, en fait, permet de comprendre un petit peu d'où viennent souvent les critiques contre l'agrégation. Malheureusement, il n'a pas pu se présenter à l'agrégation parce qu'à l'époque, on ne voulait pas de lui. Il n'avait pas les titres nécessaires pour se présenter à l'agrégation. Et il dit « Je suis charmé de ne pas me trouver étouffé dans cette sotte corporation pourrie qui ne saurait éviter de tomber lourdement dans quelques années. » Alors, nous avons 250 ans et je pense que nous avons, malgré ce qu'il en a dit à l'époque, par dépit, de nombreuses années devant nous.
Merci à tous les trois. Je souhaite à tous nos auditeurs une excellente soirée sur notre chaîne. Dans quelques secondes, vous retrouvez Le Monde selon Antoine Garapon.